Bonjour, je suis Sydney Lérider, je suis psychologue et coach en région Auvergne-Rhône-Alpes, plus précisément à Lyon 7e. Donc je reçois en cabinet privé, mais j'ai également la possibilité de téléconsultation que je propose à mes patients en fonction de leurs besoins. Aujourd'hui, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est une partie un peu de mon travail, de mon univers professionnel et un petit peu ce qui m'a amené à être dans cette profession, ce qui m'a amené à vouloir travailler dans une relation d'aide. Voilà. L'intitulé de ce podcast, c'est « Le chemin de la résilience ou du malheur au bonheur, il n'y a parfois qu'un pas ». Comprendre, donner du sens, c'est peut-être ça qui explique mon choix de carrière et pour aller plus loin, mon style de vie. Animé au fond par le sentiment que le début d'une guérison, d'une libération, le début de la paix commence par la mise en sens, la mise en mots des mots, M-A-U-X, qui bousculent, qui nous secouent ou encore nous rendent fébriles. Mes années d'expérience personnelle et professionnelle racontent ce que j'appelle un chemin de résilience, un parcours à la connaissance ou à la reconnaissance de qui on est, de nos ressources, parfois insoupçonnées, des ressources qui apparaissent dans la plupart des cas en pleine traversée du désert. Vous savez, c'est ces ressources-là où on se dit finalement, je n'aurais jamais imaginé faire ce que j'avais fait ou m'en sortir comme je l'ai fait. Au fond, que se passe-t-il lorsque nous traversons une ou plusieurs épreuves, lorsqu'un événement vient interrompre le cours d'une vie, un événement où l'impensable, l'inacceptable, l'indicible se produit. Sommes-nous tous condamnés à nous écrouler, nous effondrer face à une difficulté ou une épreuve? Est-ce que finalement, il n'y a pas d'autre issue à l'innommable, sinon la destruction et le vide? Profondément, je crois que non. Voilà pourquoi dans ce premier podcast, je voulais que je pourrais qualifier en fait d'une introduction, une entrée en matière sur ce que j'appellerais vraiment un chemin rempli d'espérance, construit et parfois co-construit, donc avec l'aide de personnes, de sa famille, de ses amis, peut-être même d'un professionnel quand cela s'avère nécessaire. Parce que finalement, traverser ce chemin parfois un petit peu compliqué nécessite de ne pas être seul. En fait, il faut garder en tête que nous pouvons sortir d'une forme d'enfermement où les événements auraient les pleins pouvoirs sur nous. Finalement, nous ne sommes pas totalement assujettis aux victimes. On ne peut pas nier que des événements violents peuvent nous affecter d'une façon très forte et que le milieu parfois agit sur nous au-delà même de notre consentement. Toutefois, je crois quand même que nous pouvons devenir des acteurs, même si nous sommes ceux ou celles qui avons subi une agression. Et je dirais qu'au fond, pour pouvoir permettre à l'événement ou aux événements ou aux épreuves de ne pas totalement nous détruire, il y a des poisons pour notre âme qu'il faut absolument éviter. La honte, la culpabilité, le manque de pardon, notamment vis-à-vis de soi-même. Et pour moi, ce sont des freins à la résilience. Ce sont des freins à la possibilité de rebondir et d'aller mieux au-delà de l'événement. Qu'est-ce que la résilience? Ça vient déjà du verbe latin resilio, littéralement sauter en arrière, d'où rebondir, résister. La résilience est la capacité d'une personne ou d'un groupe à se développer bien, à continuer à se projeter dans l'avenir en présence d'événements traumatisants, d'événements déstabilisants, de conditions difficiles, de traumatismes parfois sévères. Il faut savoir que ce terme, à la base, n'est pas un terme qui est un terme en psychologie, parce que c'est d'abord la physique. C'est d'abord un terme qu'on retrouve en physique. Et en physique, ça désigne la capacité d'un matériau à revenir à sa forme initiale après avoir subi un choc. Donc, en gros, voilà, un matériau reçoit un choc violent, mais ça ne l'empêche pas de revenir à ce qu'il était au départ. En écologie, la résilience est la capacité d'un écosystème ou d'une espèce à récupérer un fonctionnement ou un développement normal après avoir subi une perturbation. En économie, ça désigne la capacité à revenir sur la trajectoire de croissance après avoir encaissé un choc. Dans l'armement, on parle de résilience, c'est-à-dire que c'est le niveau de capacité d'un système à continuer de fonctionner en milieu hostile. Et finalement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est davantage, je dirais, la définition en psychologie, même si elle se retrouve dans les autres définitions. C'est véritablement cette capacité à être au-delà des événements, quelle que soit leur violence. Et le phénomène de résilience, c'est vraiment se reconstruire après un choc. On l'emploie beaucoup plus pour des traumatismes que pour des épreuves en elles-mêmes. Mais je crois que la résilience, on peut l'appliquer à différents chocs, en fait. Et il faut savoir que nos capacités ou nos habiletés à la résilience ont plusieurs sources qui généralement viennent de ce qu'on peut appeler les nourritures affectives acquises dans nos familles, notre éducation, nos relations sociales et culturelles. Les nourritures affectives, c'est un peu comme les parents qui remplissent votre réservoir d'amour, d'estime, de confiance en soi, d'empathie. En fait, c'est tout ce qu'on remplit et qui va vous permettre de fonctionner et de résister. Moi, ce que j'aime bien dans la résilience, c'est que c'est un terme qui dit tout à la fois parce qu'il rappelle nos capacités, nos ressources, mais il dit aussi que face à la violence, on est plus que des victimes et que ce qu'on traverse ne va pas prédéterminer de tout ce qu'on sera le lendemain, tout ce qu'on sera surtout dans le futur. J'aime la citation de Boris Cyrulnik quand il dit « Un coup du sort est une blessure qui s'inscrit dans notre histoire, ce n'est pas un destin. » En d'autres termes, ce n'est pas une fatalité. Alors, que peut-il sortir de nos fracas, de nos tracas, de ces blessures, de ce gouffre parfois qui peut totalement nous envahir lorsqu'on est dans une position de victime d'impuissance quelque part? Si je me réfère à Boris Cyrulnik, qui est quand même l'une des personnes qui en parle le plus, et je dirais même le mieux en fait, c'est que finalement, on peut passer de la blessure à la métamorphose. C'est-à-dire que la blessure, au-delà même de la question de la guérison, la blessure en fait, ne va pas simplement être là et cicatriser, nous laisser une trace. Mais cette blessure-là, on peut l'emmener à faire de nous une version, je dirais, plus aboutie, plus profonde que si simplement il s'agissait de guérir, parce qu'il s'agit de bien plus que ça. Avec le temps, ce que j'ai appris, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle, et encore plus envisager qu'il suffirait de tant de séances ou de tel type de travail pour que tout s'arrange, en fait. Je crois qu'à chaque personne, parce que chaque histoire est spécifique, chaque histoire a sa singularité, il est important d'être des créateurs de, si vous voulez, une recette, mais qui soit individuelle. Alors oui, peut-être qu'il y a des choses qui vont se ressembler, mais il faut accepter de recevoir l'autre dans toute sa spécificité et s'autoriser et l'autoriser à être plus qu'un sujet parmi tant d'autres ou un cas comme celui de X ou Y. Voilà. Alors, comment faire finalement dans la pratique? Comment ça se manifeste? Je crois qu'il y a certainement plein de choses qui peuvent être possibles. Mais une des choses que je retiens et qui peut avoir une fonction très essentielle, c'est encore la capacité de sourire et de rire quand on traverse quelque chose. Non pas pour nier ou se moquer, je dirais bêtement, de ce qui se passe, mais pour pouvoir reprendre une forme de contrôle. Le sourire et le rire ont cette fonction essentielle, comme l'écriture et la parole également. Finalement, dans le travail thérapeutique, ce que je vois et ce que je pratique aussi, c'est accueillir, recevoir la parole de l'autre, le sécuriser, lui garantir dans la mesure du possible un espace où son récit lui permettra de sortir de ce statut de victime. Parce que quelque part, donner, mettre en mots ce récit, que ce soit par l'écriture ou la parole, c'est exercer déjà une forme de distance et de contrôle ou un début de maîtrise où on n'est pas uniquement là pour subir. Alors c'est vrai que il n'y a pas, comme je disais, une façon identique de fonctionner pour tout le monde, où on dirait que bon, ben, pour un tel, on a fait ça, ben, on fera pareil pour une autre personne. Parce que pour une personne, par exemple, une jeune femme qui a vécu des viols durant la guerre, Marie-Hélène, ben, il est possible que, ben, comme Jordanie a vécu aussi des situations de viol pendant la guerre, on veut leur attribuer un traitement équivalent. Je crois qu'il faut aller plus loin que ça et véritablement proposer à chaque personne de se sentir acceptée dans sa particularité. Donc, pour moi, c'est vraiment, vraiment important d'aller à la rencontre de l'autre. Non pas pour être celui ou celle qui interroge, mais plutôt celle qui donne l'espace pour recevoir la parole. Qu'elle soit totale, elle soit partielle, juste la recevoir et accompagner cette parole vers une libération. Alors bien sûr, dans un travail thérapeutique, il y a bien sûr encourager, stimuler les tuteurs de résilience de chaque individu, et l'aider vraiment à voir, voilà, quelles sont ces ressources qui parfois sont restées de côté, qui parfois ont été peut-être même, je dirais pas éteintes, mais mis dans un tiroir, mis de côté. Et donc ces ressources-là, en les mettant en avant, on peut commencer un début de reconstitution, de reconstruction plutôt. Bien sûr, aider la personne à se repositionner face au traumatisme, parce que qui dit traumatisme dit que l'estime de soi et la confiance en soi ont été ébranlées. Car quand on est dans une position de victime, donc d'impuissance, c'est un peu comme si on avait émietté votre estime de soi, votre confiance en soi. Cela peut faire penser à un peu une ville. Voilà, c'est l'exemple qui me vient spontanément, c'est une ville après le passage d'un ouragan. En gros, l'ouragan, une fois qu'il est passé, tout ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a que désolation. Tout a été comme rasé. Souvent, on a l'impression qu'il semble impossible de tout reconstruire. Le découragement, le dégoût, l'envie parfois même de renoncer à la vie parce que plus rien ne semble possible. En tout cas, c'est ce qui apparaît dans la période immédiate. Ce moment où on a été dans cette situation tellement violente, où on est dépossédé de tout, un effondrement, une totale impuissance en fait. Nous n'avons pas été capables d'éviter ça, ou encore nous ne sommes pas suffisamment capables de rebondir. Dans la majorité des cas, il est important de se faire accompagner. Quand bien même on peut estimer que qu'on ne va pas si mal que ça. Alors quand je parle d'accompagnement, vous savez, je crois que l'accompagnement n'est pas forcément celui d'un professionnel. Bien sûr, il y a des situations où je pense qu'il est important d'avoir une intervention d'un professionnel, d'un thérapeute, pour pouvoir travailler certains éléments du traumatisme, ou le traumatisme entièrement d'ailleurs, mais parfois il est possible. Et ça, c'est pour ça qu'il est important de regarder vraiment à chaque individu. Certains individus vont pouvoir, avec l'aide de leur entourage, se sortir du traumatisme, vont pouvoir sublimer le traumatisme. Quand je parle de sublimer, je parle de transformer. C'est-à-dire que, par exemple, il y a beaucoup d'auteurs, en fait, je crois que Boris Cyrulnik, dans un de ses ouvrages, en parlait, ces auteurs, finalement, qui avaient des parcours de vie tellement chaotiques, parfois douloureux, violents, qui, avec l'écriture, étaient passés à un autre niveau. Je ne dirais pas de guérison, mais en tout cas à un autre niveau qui leur permettait de reprendre le contrôle. Et D'où ce que je disais, nous pouvons utiliser différentes manières en fait de sortir du traumatisme. Il n'y a pas une manière unique, il y a plusieurs manières, d'où l'importance, comme je disais, de respecter la singularité de chacun. Je n'adhère pas à un modèle général ou un protocole identique pour tous. Voilà, donc je pense que c'est important de le comprendre. Ce n'est pas parce qu'on a vécu un traumatisme que si on n'a pas été voir un psychologue, un psychiatre, que c'est mal ou que non, pas du tout. Je crois que c'est important de se faire aider d'une manière ou d'une autre. Ce que je me rends compte, par exemple, dans ma pratique, c'est que lorsque je rencontre un patient ou une personne, j'ai pour habitude de ne pas m'arrêter simplement à la douleur ou la violence qui peut être présentée, hein, mais à discerner finalement cette lumière qui, pendant très longtemps, ou qui à ce moment-là en tout cas, semble lointaine ou éteinte. Entrevoir cette lumière-là, c'est donner à la rencontre une autre dimension que celle de simplement recevoir la douleur de l'autre, mais plutôt lui dire oui, c'est possible de l'exprimer. Et tu as dans cet espace que je te propose la possibilité de dire sans tabou, sans jugement, ce que tu as traversé. Avec tes mots, avec aussi ta mémoire qui parfois ne nous donne pas les éléments tels qu'ils se sont passés, parce que la mémoire aussi, elle a des particularités sur lesquelles on pourra éventuellement revenir hein, par la suite. Mais ce que je veux dire par là, c'est en offrant cet espace où dans cette rencontre, ce n'est pas seulement le professionnel qui reçoit la douleur, le chagrin, les peurs et le récit, mais c'est le professionnel aussi capable de voir la lumière qui existe encore, de voir encore qu'il y a quelque chose, des ressources à déployer, à manifester pour démarrer la reconstruction. Donc je crois que c'est vraiment important de ne pas être simplement l'espace où on dépose, mais l'espace aussi où ce qu'on dépose peut être transformé. Ce qu'on dépose est respecté, bien sûr, puisqu'il ne s'agit pas de dire à l'autre, ben, écoutez, c'est très difficile ce que vous avez reçu, mais bon, la vie continue, hein, faut plus y penser maintenant, on est à autre chose. Non, je crois que c'est très important d'être dans le respect de ce que l'autre nous transmet, de ce que l'autre nous partage de son intimité, et ne pas juger de ce qu'il pourrait ou devrait faire à ce moment-là, mais plutôt recevoir ce qu'il partage et en faire quelque chose qui ne soit plus aussi ou autant douloureux. Alors, bien sûr, là, c'est un peu comme ça que je travaille et j'aimerais quand même vous éclairer parce que il n'y a pas une façon unique aussi de recevoir ce que le patient dépose. Il y a différentes façons et ça va se traduire dans l'entretien par rapport au niveau d'alliance qui se met en place ou pas. Il y a différents facteurs et c'est souvent au cas par cas. Pour revenir à la question du traumatisme, à ce qu'elle provoque comme détresse, mais aussi comme rupture. Parce que quand on est dans une situation de traumatisme, il y a une rupture dans la continuité de l'espace psychique, du temps et de l'environnement social. On est comme figé. On est comme complètement envahi en fait par cette situation. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'heure, il n'y a plus rien qui semble avoir de prise sur nous, seulement la violence du choc. Parce que c'est un état particulièrement déstructurant. Et il est vraiment important dans ce qui se joue dans le traumatisme, de ne pas faire l'économie, à mon sens, d'aller à la rencontre de soi-même avec bienveillance et bientraitance, et de croire que c'est possible de s'en sortir, de croire qu'il est possible que quelque chose de bon puisse sortir de ça. Spontanément, quand on a une situation difficile, c'est pas forcément les premières choses, c'est pas forcément les premières idées qui nous viennent. Parce qu'il y a un temps, hein. On ne peut pas simplement se dire, voilà, je vis ça, c'est compliqué, et puis dans quelques semaines, ça ira. Non, parce qu'il faut savoir aussi que nous sommes tous différents face au traumatisme. Nous sommes tous différents. Ce que aujourd'hui peut ce qui pourrait aujourd'hui détruire X ou Y ne détruira pas C et B. Donc, il y a vraiment cette particularité de comment est-ce qu'on reçoit le choc et de l'importance de la résilience. Pour finir je dirais ce premier podcast, ce que je voulais vous dire, c'est que certaines personnes naissent avec plus de facilité à la résilience, mais ça peut s'apprendre également. Donc, il n'y a pas de situation où finalement on peut se dire, ben non, moi j'ai vécu tellement de traumatismes que finalement je me rends compte que je suis détruite, qu'il n'y a plus rien, que tout est cassé. Non. Bien sûr, certaines choses sont cassées, mais il est toujours possible d'apprendre à devenir résilient. Ce n'est pas du jour au lendemain, mais c'est possible. Donc, en gros, ce que je voulais vous dire, c'est que vous êtes tous, autant que vous êtes, capables de devenir résilients, capables de devenir acteurs, en fait, de votre vie, et surtout de construire un chemin de résilience, où, quelles que soient les circonstances qui peuvent vous bouleverser, vous êtes capable d'en ressortir meilleur, plus fort. C'est possible. Donc, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et lors du prochain podcast, j'essaierai éventuellement d'y répondre. À bientôt. Merci d'avoir pris le temps d'écouter et de partager ce podcast.